Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
Attaque à Komsilga dans la commune de Zimtanga, dans le centre nord. 14 personnes, dont 9 d'une même famille, y trouvent la mort. Autre attaque, cette fois de la patrouille mixte à Sakwani, le bilan s'alourdit à 6 morts. Et puis les vols peuvent se poursuivre à l'aéroport. Les aiguilleurs du ciel de la Segna ont décidé de suspendre leur grève hier. Le tour du Faso débute en quelques semaines. Comment les étalons se préparent? Nous avons échangé sur le sujet avec le cycliste Paul Dumont. Interview à suivre en fin de journal. Voici pour les titres. Bonjour et bienvenue. Au moins 14 personnes, dont 9 d'une même famille, ont été tuées mercredi dernier à Komsilga, dans la commune de Zimtanga, dans le centre nord. C'est ce que révèle l'agence d'information du Burkina, AIBIM. Plus de précisions avec Benabé Cabré.
Selon un témoin interrogé par l'AIB, l'agence d'information de Burkina, les 4 premières personnes qui sont arrivées sur le chantier ont été kidnappées et assassinées à l'arme blanche. Un affrontement éclatera par la suite entre les hommes armés et des VDP arrivés plus tard pour sécuriser les lieux. Contraints de replier, les hommes armés ont tiré sur des passants, faisant 6 autres morts. Et après les événements, une femme, ses 2 fillettes et un garçonnet au dos, dans une charrette, ont sauté sur une mine au niveau du chantier en question, relate toujours l'AIB, citant un ressortissant de la commune proche de plusieurs victimes. Le témoin a précisé que 9 personnes tuées sont d'une même famille de Komsilga et 2 autres du village de Petaka Kisugu. L'attaque a été confirmée à l'AIB par une source sécuritaire qui n'a pas précisé le nombre de victimes, ajoutant qu'après cette attaque, l'armée et les VDP ont envahi la localité et procéderaient à un ratissage. Les corps des victimes ont été inhumés le 22 septembre 2022 avec l'assistance des FDS et des VDP et depuis lors, des habitants de Komsilga, Bayen Fulugo, Loa et même une partie de Bam Village sont en train de quitter les lieux. Le 12 septembre dernier, des hommes armés avaient donné un ultimatum aux habitants de Zimtanga de quitter les lieux parce qu'ils refusaient de leur vendre des produits de première nécessité. La commune de Zimtanga a essuyé de nombreuses attaques terroristes depuis octobre 2019 avec des attaques meurtrières dans des villages de Singa, Komsilga, Kargo et Momene.
Et puis, autre attaque, selon plusieurs sources concordantes contactées par Omega Media, on apprend que la localité de Sakwali, dans la province de Latapoa, dans la région de l'Est, a été le théâtre d'une attaque le 24 septembre à dernier. L'attaque a visé une patrouille mixte FDS-VDP. Le bilan provisoire non officiel fait état de plusieurs personnes portées disparues. Adams Khaled Ouedraogo nous en dit plus.
Une patrouille mixte composée d'éléments du détachement militaire de Kanchari et des volontaires de la défense de la patrie VDP a été attaquée ce 24 septembre, a appris Omega Media de sources locales. L'embuscade a été tendue par des hommes armés non identifiés dans la localité de Sakwani, dans la province de la Tapoa, en croit les mêmes sources. Aucun bilan officiel n'a été communiqué pour l'heure, mais les témoignages recueillis font état de plusieurs personnes portées disparues, sans faire mention de pertes en vie humaine. Le 12 septembre 2021, cette même localité de Sakwani a été le théâtre d'une attaque qui a visé un convoi de citernes de carburant au profit d'une société minière. L'embuscade avait fait au moins 5 morts, dont 4 gendarmes et de nombreux blessés.
Et puis, comme je le disais en titre, le bilan s'est alourdi, bilan donc provisoire, non officiel. Finalement, on apprend que c'est 6 morts du côté des FDS. Et puis lutte contre l'extrémisme violent, l'association Éducommunique Afrique est allée constater de visu l'intervention de ses volontaires dans la région du centre-nord. À Kaya, la délégation a pu assister à quelques activités de l'équipe locale, notamment une conférence publique sur les stratégies de résilience au profit des jeunes. Le compte-rendu est signé Abdoul Fattah Aftiam Touré.
Éducommunique Afrique ne veut pas se contenter des rapports adressés par ses équipes de volontaires. Cette visite à Kaya permet à l'association de voir de près son équipe à l'œuvre. Ce 17 septembre, le superviseur régional Didier Daourou et ses camarades organisent une conférence publique sur le thème « Extrémisme violent, quelle stratégie de résilience pour les jeunes ?»
C'est en quelque sorte pour permettre aux jeunes d'avoir les rudiments nécessaires afin de pouvoir développer justement leur localité tout en affrontant justement ce fléau-là qui jusque-là continue toujours de semer la terreur au sein de la commune.
Pour le conférencier du jour, cette résilience souhaitée ne peut être réelle sans une gouvernance vertueuse et une justice sociale. Cependant, les jeunes ne doivent pas non plus tout attendre des autorités. Amadou Kano, conférencier.
Nous avons, au-delà de la responsabilité de l'autorité gouvernementale, relevé également la responsabilité de la jeunesse qui doit s'assumer, qui doit se former, qui doit s'informer. Si nous avons une jeunesse épanouie, une jeunesse qui a du boulot, qui a de la matière, cela va rendre beaucoup plus difficile l'enrôlement de ces jeunes-là pour venir encore attaquer et enduire nos propres populations.
Message apparemment bien reçu par ce participant, Ali Maïga, lui-même déplacé interne.
C'est à nous les jeunes de lutter pour pouvoir collaborer avec la sécurité et pour qu'on s'aide entre nous et sans autre défaut, pour que notre pays gagne la paix.
La conférence publique terminée, les volontaires et du Communique Afrique sont allés à la rencontre des personnes déplacées accueillies au quartier Bollé, secteur 6 de Kaya. Un exemple de tolérance et de solidarité entre les populations hôtes et les déplacés malgré l'insuffisance de vivres. La délégation venue de Ouagadougou a également participé à une plantation d'arbres et à des rencontres avec des associations partenaires.
24 heures après son entrée en vigueur, la grève de l'Union des syndicats des contrôleurs aériens de la SEGNA a été suspendue hier. Une suspension qui a pris effet à compter de 12 heures. Cette nouvelle suspension est consentie par les contrôleurs aériens de la SEGNA pour donner une fois de plus une chance au dialogue, a expliqué le syndicat dans son communiqué numéro 10. À en croire toujours le bureau exécutif de ce syndicat, la décision de suspension du mouvement d'humeur a été motivée, entre autres, par l'implication personnelle du premier ministre ivoirien. Les négociations entamées entre le syndicat, le ministre du Transport du Sénégal et le directeur général de la SEGNA, lancées en fin juillet dernier, suspendu et ensuite réactivé depuis le 20 septembre dernier. Le préavis de grève des contrôleurs aériens de la SEGNA a été mis en exécution vendredi dernier. Cette grève, initialement prévue pour durer 72 heures, n'a finalement tenu que 24 heures pour un retour à la table des négociations. Contribuer à l'amélioration du système éducatif et promouvoir l'utilisation des technologies, de l'information et de la communication en milieu scolaire. Tels sont les objectifs du groupe CAFICA, spécialisé dans la conception de solutions informatiques. À l'orée de la rentrée scolaire 2022-2023, le groupe CAFICA innove avec un nouveau produit qui s'adresse aux établissements, le logiciel dénommé Kouni, dont, en langue mori, est le dernier né du groupe. L'application éducative Kouni est conçue pour faciliter la gestion du suivi scolaire, la caisse, la pédagogie et les données statistiques des élèves. La présentation du logiciel faisant office de lancement a eu lieu vendredi dernier. C'était en présence de Irène Kiema et Judith Traoré.
Conçu par le groupe CAFICA, Kouni, qui veut dire en français don, est un logiciel gratuit de gestion scolaire. Il est destiné aux établissements publics et privés. Cette application évitera la gestion précaire des établissements. Selon le directeur de CAFICA, Brice Kabouré, le logiciel Kouni permettra aux différentes écoles de suivre l'évolution des technologies de l'information et de la communication.
Le logiciel de gestion scolaire Kouni, c'est un logiciel complet qui va permettre aux écoles d'avoir une meilleure gestion de leurs administrations. L'objectif de ce projet, c'est participer aussi à la modernisation des administrations publiques et privées. Donc le groupe CAFICA, étant une entreprise informatique, a mis en œuvre ce logiciel au profit des établissements qui désirent avoir un logiciel de gestion scolaire mais qui n'ont pas les moyens de s'acquérir.
En plus de ces différentes formalités, le logiciel Kouni permettra aux responsables des établissements d'envoyer des notifications aux parents d'élèves par rapport aux résultats de leurs enfants. Maimouna Sawadogo, directrice de l'industrie numérique, représentante du ministre de la Transition digitale, des postes et des communications électroniques, témoigne du sacerdoce du groupe CAFICA.
En termes de complétude, je dois dire qu'il est assez complet, il est assez appréciable et ça facilite non seulement l'administration, la scolarité avec les acteurs de l'éducation, mais aussi permet d'informer à temps réel les parents d'élèves sur l'actualité de l'établissement, mais aussi sur tout ce qui concerne leurs enfants au sein de ces établissements-là.
Selon le directeur général de CAFICA, cette gratuité du logiciel permettra aux établissements publics et privés d'économiser les fonds prévus pour l'acquisition d'un logiciel de gestion scolaire. Pour les géniteurs de Kouni, en le rendant gratuit, ils entendent par leur geste apporter leur modeste contribution à l'amélioration du système éducatif burkinabé.
Prévu tous les derniers samedis du mois, pour ce mois de septembre, l'opération Manamana a concerné les arrondissements 5 et 11 de Ouagadougou ainsi que la commune rurale de Kobrim. La délégation spéciale présidée par le gouverneur de la région du Centre est passée encourager les populations à travers un coup de balai hier. Objectif, encourager les habitants à intégrer dans leurs habitudes quotidiennes cet acte patriotique. Valérie Traoré et Asreni Kiema nous en disent plus.
Le point de départ de cette action a été l'arrondissement 5 de la ville où la population est sortie nombreuse. Issa Démé, président de la délégation spéciale de l'arrondissement 5.
L'un des objectifs de l'opération Manamana, c'est de favoriser d'abord la cohésion sociale. Vous voyez qu'aujourd'hui, les autorités régionales arrivent à se frotter à la population au niveau de l'arrondissement numéro 5. Et il a fallu une telle opération pour qu'il y ait ce brassage et que l'on brise ces barrières afin que toute la population puisse communier ensemble et cela participe vraiment au renforcement de la cohésion sociale dans le Kadiogo et partant dans tout le Burkina.
Munis de pioches, raquettes et brouettes, les femmes, hommes et jeunes, un union sacrée travaille tous ensemble ici à l'arrondissement 11 pour débroussailler les différents rebords de la route. Dans cet arrondissement, l'opération est à sa 4e édition, mais il y a toujours de l'engouement. Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou invite à une adhésion totale des Ouagalais pour assainir leur quartier, mais aussi pour promouvoir la cohésion sociale. Maurice Konaté.
De cette activité, opération Manamana, pour faire de nos villes et de nos quartiers des quartiers très propres, sains, où il faut bien vivre. C'est également aussi l'occasion pour moi de lancer un message de cohésion sociale, de fraternité, pour que le vivre ensemble que nous avons longtemps de notre vœu soit une réalité.
Cap est ensuite mis sur la commune de Koubri. Ici, la délégation spéciale est présidée par le gouverneur de la région du Centre. Et selon les organisateurs, l'accent est surtout mis sur les yards des différentes communes. Perpétuer cette tradition jusque dans les ménages est le message du premier responsable de la commune de Koubri. Aruna Kombasiri.
Perpétuer donc cette activité dans les ménages, dans les lieux de travail et également dans les différents lieux pour donc rendre notre cadre de vie propre et notre cadre de travail. Ce matin, nous avons été honorés. Nous avons été honorés par la visite de M. le gouverneur. Nous sommes contents de sa présence et nous avons reçu donc le message et au sein de la délégation spéciale, c'est de travailler à perpétuer donc cette idée, à faire en sorte que la population puisse avoir ce comportement citoyen.
Lancé en avril dernier, l'opération Manamana a lieu tous les derniers samedis du mois. Le but, rendre le cadre de vie propre et intégrer ses activités dans le quotidien des habitants. Pour le mois d'octobre, elle aura lieu dans les arrondissements 2 et 9 de Ouagadougou et dans la commune rurale de Pabré.
Radio Omega, votre émission Dimanche politique reçoit pour vous Maître Guy Evikam. Avec lui, nous revenons sur le procès historique d'Abou Boukari. L'émission portera également sur la réforme que l'on peut apporter dans le domaine de la justice pour une justice plus crédible. Dimanche politique, c'est à partir de 9h00 sur Omega TV et la 103.9 Ouaga et la 104.7 Bobo à Djoulasso. Hors de nos frontières, en Guinée, Étienne Soropogui, le président de Nos Valeurs Communes, a été arrêté hier à Conakry par la gendarmerie nationale. Selon RFI, Étienne Soropogui sortait d'une émission de grande écoute de la radio privée locale Radio FIM FM lorsqu'il a été arrêté après avoir critiqué la junte au pouvoir. Il a été conduit à la brigade de recherche et des investigations judiciaires de la gendarmerie dans la banlieue de Conakry. Les autorités n'ont, quant à elles, pas encore communiqué sur la raison de cette arrestation.
L'invité du jour.
L'invité du jour.
Le Tour du Faso débute dans quelques semaines et déjà les étalons affûtent leurs âmes. Ils sont sur tous les terrains et viennent de rentrer de la Côte d'Ivoire où ils ont été classés deuxième au classement général autour de la Côte d'Ivoire et remporté le Grand Prix de la ville d'Abidjan. Paul Demont et ses camarades cartonnent forme. Nous l'avons rencontré pour vous dans cet entretien. Il revient sur le Tour de la Côte d'Ivoire, mais aussi du Tour du Faso et surtout de son nouveau club. Il est interrogé par Ibrahim Bayeli.
Vous étiez en Côte d'Ivoire avec l'équipe nationale pour participer à ce Tour de Côte d'Ivoire. 3 secondes, hein, c'est ce qui vous a manqué pour remporter le maillot jaune. Il y a eu énormément de choses autour de cette compétition. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Oui, alors effectivement, on est rentré avec l'équipe il n'y a pas si longtemps que ça du Tour de Côte d'Ivoire. On est rentré à la maison avec une deuxième place au classement général, comme vous l'avez dit, à 3 secondes du maillot jaune. Également 3 étapes dans notre poche, et ainsi que le Grand Prix de la ville d'Abidjan. Donc voilà, c'est un bilan mitigé. On est quand même content de ce qui s'est passé là-bas, parce que voilà, on était vraiment attendu puisqu'on avait obtenu le titre en 2019. Donc c'était notre tour sur le Tour de Côte d'Ivoire cette année. Donc forcément, il a fallu prendre les responsabilités. Bon, malheureusement pour nous, on a dû échouer à la deuxième place, mais on a pu se contenter avec de belles victoires d'étape et vraiment une belle bataille avec les différentes équipes qui étaient présentes là-bas.
Et puis, le clou, hein, c'est cette victoire de la ville d'Abidjan. Est-ce qu'on peut dire que vous l'avez spécifiquement préparée?
Oui, ça a été un objectif, d'autant plus que voilà, on a échoué encore une fois, comme je l'ai dit, à notre mission de revenir avec le maillot jaune. Donc la nuit du samedi au dimanche a été vraiment très courte pour nous parce que voilà, ça a été difficile à digérer. Voilà, juste 3 secondes de l'objectif, on se dit que c'est vraiment infime, mais c'est aussi un fossé énorme. Donc du coup, on était vraiment motivés à remporter ce Grand Prix d'Abidjan. Voilà, au lendemain de la fin du Tour de Côte d'Ivoire, où j'avais justement échoué encore à la deuxième place pour la victoire d'étape à la photo finish. Donc vraiment, on a mis en place une stratégie avec l'équipe pour au moins repartir sur une bonne note et un peu oublier notre échec sur le Tour de Côte d'Ivoire.
Paul Demont, est-ce que on peut dire que aujourd'hui vous êtes au summum de votre art?
Bon, je pense et j'espère que j'ai encore de la marge de progression. Je le sens, on va dire, dans mes jambes et dans la tête. Je sais que je peux peut-être encore devenir encore un peu plus fort que ça, mais il faudra à ce moment-là, alors pour moi, partir entre guillemets du Burkina Faso, c'est-à-dire intégrer des équipes à l'extérieur, comme le font par exemple les footballeurs professionnels qui partent jouer dans les championnats en Europe, pour me permettre de me frotter, on va dire, quotidiennement aux meilleurs coureurs de la discipline et voilà, participer à des plus grandes courses encore. Voilà, donc je pense que c'est tout ça qui va me permettre encore de franchir un palier pour essayer voilà, d'atteindre le maximum de mes capacités.
Et c'est déjà, ça profile à l'horizon?
Oui, en effet, la nouvelle est tombée donc le mois passé. J'ai eu la chance d'avoir eu un contrat en tant que stagiaire dans l'équipe Continental Pro Touch, qui est une équipe sud-africaine. Voilà, donc je suis sous contrat avec eux en termes de prêt jusqu'à la fin de la saison pour me permettre justement de participer déjà à des compétitions de niveau continental et international. C'est une manière pour eux de me mettre au défi, de jauger un peu mon niveau pour peut-être voilà, me proposer un contrat d'ici la saison prochaine. Pour voilà, m'engager avec eux. Mais pour l'instant, c'est juste un contrat de stagiaire, c'est-à-dire que je respecte toujours mes obligations avec mon club, l'AS Bessel, qui est présent ici à Ouagadougou.
Alors, pendant que vous serez sous contrat stagiaire, est-ce que pour le championnat national, vous pourrez revenir courir pour l'AS Bessel, par exemple?
Oui, tout à fait. Bon, ça va dépendre de la nature du contrat. Voilà, je sais qu'il y a certaines possibilités justement d'avoir 2 clubs. Donc à ce moment-là, il va falloir se préparer à l'avance, trouver un terrain d'entente avec les 2 clubs, les 2 formations, pour justement pouvoir revenir participer peut-être à quelques courses avec le maillot de l'AS Bessel. Mais ce qui est sûr, c'est que je serai toujours disponible pour l'équipe nationale. Voilà, les clubs européens qui ont l'habitude de recruter des coureurs africains savent à quel point justement les sélections en équipe nationale sont importantes pour les coureurs africains. Donc voilà, ils nous permettent effectivement de participer librement à nos regroupements, pardon, avec l'équipe nationale. Ce qui nous permet aussi d'avoir comme on le dit dans le jargon, d'avoir des pros au sein de l'équipe. Donc voilà, ils savent que c'est très important. Donc franchement, normalement, il devrait y avoir carte blanche dessus.
Alors déjà, hein, le tout du Faso profil à l'horizon. Mentalement, comment est-ce que vous le préparez ?
Mentalement, il va falloir pouvoir gérer la pression. La pression, elle commence déjà à monter petit à petit. Voilà, on le voit à partir d'aujourd'hui, on est que mi-septembre, mais voilà, les médias ont commencé à en parler déjà. C'est dans un mois et demi. Donc voilà, la pression, elle s'installe petit à petit. Mais bon, je peux dire que j'ai de la chance. J'en suis déjà à mon troisième tour du Faso. Donc j'ai eu l'occasion aussi de participer à des courses internationales. Je suis entouré avec une équipe compétente au niveau de l'équipe nationale et au niveau de mon club qui me permettent voilà, d'aborder ce genre de grosses échéances le plus sereinement possible. Donc à partir de ce moment-là, on peut dire que dans la tête ça va, la gestion du stress ça va, mais maintenant ça va être la gestion du physique. Voilà, on va essayer de participer à beaucoup de compétitions pour essayer de vraiment se mettre en forme. Mais aussi ne pas en participer de trop aussi pour ne pas arriver aussi épuisé autour du Faso parce qu'on sait que c'est une compétition de 10 jours et 10 jours et presque 1200 km. Il faut avoir suffisamment de réserves aussi pour être actif sur les 10 jours.
C'était l'invité de la rédaction.
Voilà, l'invité de la rédaction, donc le cycliste Paul Doma, interrogé par Ibrahim Bailly avec lui, nous référant à ce journal et ce proverbe cubain. Le pire des hommes est celui qui mange seul sans les siennes. Donc avec ce proverbe, nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute des programmes de la Radio Omega, tout en méditation. Rendez-vous à 9h00 pour votre émission Dimanche politique.
Radio Omega, l'info en direct.